éphémère, 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le 23 juillet 2005. Comme tous les samedis, nous ouvrons avec les magazines, estivaux, supplément week-end, BD et télévision, puis le cahier du sport. À partir de 15h, de la musique avec Vie d'ordure, c'est du punk. 20h, la Stétéro Expérience, c'est de la disco, super bizarroïde. 21h30, Liquid Sky, c'est de l'électro. 23h, Breakbeat Experience, c'est la jungle. Voilà, vous êtes sur Radio FMR, la poubelle des radios. C'est Xavier, ça va être pénible, je sens l'émission, je sais pas pourquoi. Bah voyons!
FMR, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Je veux dire qu'avant c'était pas du direct, maintenant vous le sentez, c'est vraiment du direct! Par quoi va-t-on commencer aujourd'hui?
And we're gonna start with this.
We'll be right back. The James Taylor Quartet, extrait de l'album Penthouse Suite. Blow Up, c'est une reprise. Waouh! Eh, ça envoie. Voilà, donc vous écoutez Supplément Week-end sur Radio FMR. C'est Xavier avec vous jusqu'à 13h et des pelures normalement. Du sport va arriver en cours d'émission comme d'habitude. Thomas, lui, n'est pas là. Thomas, malheureusement, est malade ne sera pas à l'antenne pendant un bon bout de temps. J'espère pour lui quand même qu'il va pas trop souffrir. En tout cas, je lui souhaite tous mes voeux de rétablissement parce que Primo, c'est un bon copain. Et puis deux, c'est pas drôle ce qu'il a. Et j'espère que je vais lui piquer son infirmière de temps à autre pour m'aider à faire l'émission. La deuxième personne qui m'a lâché pour cette émission, et c'est un fidèle de Radio FMR, il s'agit du pied micro côté réalisateur. Ça y est, il est démonté, il est fini, il est explosé. Et en plus, j'ai voulu le remettre en place, je me suis bêtement énervé. Non, j'ai rien cassé, mais je suis absolument pas arrivé. Et donc, du sport va me haïr tout à l'heure jusqu'à 15h. Donc je suis désolé, si vous écoutez cette émission au casque, par exemple un baladeur FM, sur le flux Hog Vorbis ou sur un baladeur Hog ou MP3, ben vous allez entendre des plouk, et j'en suis désolé, mais c'est pas pratique de tenir un micro d'une main, déplacer les papiers, ou les CD, mettre en place et tout, voilà. Je suis un self-made man, mais je peux vous jurer, ça n'est absolument pas facile, voilà. Sinon, sur les bandes dessinées, je tiens à faire une annonce particulière. Cette émission est déconseillée aux moins de 10 ans parce que ça va envoyer sévère. Puisque j'ai choisi 3 BD où ça va être légèrement roulé, roulé. Ça va parler de Bagatelle et compagnie, Zou, par-dessus la jambe. Allons-y, hop. Après tout, c'est l'été. Un peu dans nos cœurs, puisque donc les publications dans la bande dessinée ne sont pas très nombreuses en kiosque, et une qui disparaît, une de plus, c'est malheureusement, on va dire, pas quelque chose, pas une bonne nouvelle, non pas parce que la bande dessinée va mal en France, loin de là, puisqu'on va encore vers les records du nombre de sorties en album, avec plus de 2500 nouveautés cette année. C'est littéralement énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2500 nouveautés sur une année. Je compte pas les compilations, les republications, c'est littéralement l'encombrement chez les libraires, la FNAC, il est stock, mais au bout d'un moment, ils se disent, oula, on sait plus comment on va faire. Et alors, les supermarchés, j'en parle pas, ils en mettent que 10 par mois, ils savent plus choisir. Bon, après tout, c'est pas leur métier. Hein. Bref. La bande dessinée va bien, mais pas du tout en kiosque. Parmi les rares revues de prépublication qui existent encore, il y a Bodoy, bon, oui, ok, soit. Il y a Pif Gadget qui est revenu d'entre les morts avec un succès, mais malheureusement ça ne semble atteindre que, je vais dire, les enfants du troisième âge. Et à côté, donc on a vraiment pas eu beaucoup de créations puisque Métal Hurlant va plus ou moins bien. Et là, c'est carrément la revue Vécu qui s'arrête. Vécu, c'est une revue qui avait pour vocation historique, qui publiait des bandes dessinées, qui faisait la promo plus exactement, une bande dessinée de chez Glénat dans la collection du même nom, qui avait été montée par Henri Filippini, si je ne me trompe. Et donc la revue trimestrielle a arrêté de donner de ses nouvelles depuis cet hiver. Elle était adossée donc à la collection du même nom, elle faisait des dossiers à vocation historique, plus ou moins bien écrits. Il y avait aussi, depuis la reprise en main par une nouvelle équipe, il y avait pas mal d'articles sur des romans, sur des films qui étaient plus ou moins récents, donc c'était... On va dire, c'était pas trop mal. Le seul problème que je lui reprochais à cette revue, c'est qu'elle publiait les bonnes feuilles des albums. C'était pas des publications à suivre sur plusieurs épisodes. C'était juste, en fait, on va prendre 5-6 séries, on va vous publier les 16 premières pages juste histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Et après, à vous d'acheter le bouquin. C'était, en fait, ça ne faisait que la promo. C'était quand même assez frustrant pour l'acheteur parce que la revue était quand même assez luxueuse. C'était un peu l'équivalent de Géo en qualité papier, qualité de reproduction. C'était un peu dommage. Et à la fin, il y avait un album entier en noir et blanc, c'est-à-dire sans la colorisation, juste avec la planche ancrée. C'était quand même un peu dommage, je vais dire. Bref, vous allez me dire, c'est peut-être parce que l'éditeur va mal. Non, les éditions Glénat, le groupe Glénat lui-même, a du cash flow, puisqu'elle vient de prendre une participation dans une deuxième chaîne de télévision locale, puisqu'ils étaient déjà actionnaires, je crois, à hauteur de 18%. Auprès de Télé 8 Mont-Blanc, et là donc ils viennent de prendre là aussi une autre participation auprès d'une télévision locale qui est en train de se monter, qui s'appelle Télé Grenoble. Donc ils vont bien, les éditions Glénat. C'est très probablement le constat amer que les revues de bande dessinée ne font plus recette, enfin en tout cas les revues de prépublication de bande dessinée ont un peu du mal à vivre à notre époque. Peut-être qu'il faut aussi inciter à acheter à chaque numéro, c'est-à-dire un peu aller vers l'abonnement plutôt que en publiant des histoires sur plusieurs tomes, plutôt que s'arrêter juste sur certains tomes. Ça, c'est vrai que c'était un peu idiot. Enfin bon, la plupart des séries ont changé de collection, comme par exemple Giacomo C. Giacomo C, donc, c'est une série qui en est à son 15e tome, qui donc vient de glisser de collection, elle vient de passer de la collection Vécu à la collection Caractère, ce qui lui permet de gagner d'ailleurs en taille. Les planches sont un peu plus grandes, donc du coup on apprécie un peu mieux le détail. Je veux dire, non seulement le scénario de Jean Dufaux, mais aussi le dessin de Griffo. Et donc, on retrouve la Venise du 18e siècle, et elle est divisée en deux. D'un côté, il y a les bien-pensants de la cité des doges qui répugnent ce libre penseur. D'un autre côté, il y a les gueux, les femmes de peu de vertu, qui n'a jamais redi ni sur l'odeur, ni sur la tenue. Les bourgeois à qui il a fait pousser les cornes, et les femmes qu'il a séduites. Non, il les a jamais violées ni quoi que ce soit, et il les a toutes séduites. Mais pour Giacomo, c'est comprendre Casanova, c'est la Lali. Sa tête a été mise à prix par le marquis de Sanvere. Le marquis de Sanvere, il est connu à la fois pour sa cruauté et sa détermination à remplir la justice du tribunal de l'Inquisition. Et oui, on est à la fin du 18e, et malgré tout, à Venise, il y a encore une Inquisition. Et il se trouve que sa sérénissime, sa haute autorité morale de Venise, a décidé de ne plus couvrir les frasques de Giacomo C. À peine échappé d'un mari jaloux qui voulait se la jouer torture en cave façon moyenâgeuse, c'est déjà un peu passé d'époque, on est au siècle des Lumières. Voici que Giacomo tombe sur la milice qui est bien décidée à le mettre au plomb. Oui, les prisons sont pour les gens importants. C'est pas dans les caves, mais sous les toits de plomb qu'on les emprisonne. En été, c'est un véritable bonheur. Le 15e album, donc, est un épisode où chaque personnage de cette tragicomédie y va de son monologue pour expliquer les événements de son point de vue. C'est un peu manière drame shakespearien. Peut-être un gros clin d'œil à un contemporain. Homme politique, à la vie agitée, metteur en scène de ce genre d'histoire. Beaumarchais, bien sûr. Une narration rare en bande dessinée qui rend encore plus appréciable cette série, qui romance la vie d'un des citoyens les plus turbulents de Venise. Hey, Venise, c'est pas que les gondoles, on sait aussi se gondoler là-bas. Tout en dessinant dans le fond de la peinture la vie quotidienne de cette époque. Le tandem Jean Dufaux et Griffaut, parfaitement rodé, donne une leçon de bande dessinée façon franco-belge. Un délice à mettre en parallèle avec la série Les Plombs de Venise, créée par Patrick Mallet, dont le deuxième tome s'appelle La Chambre aux mille visages, dont j'ai parlé en mars dernier, et qui parle là aussi du personnage de Casanova, mais cette fois-ci justement sous les plombs de Venise. On va parler de mécano spatial pendant que du sport lui fait le mécano avec le pied micro, il vient d'arriver. Je fais aussi mes salutations à Philippe Bapt qui me parlait dans le dos par le soupirail, mais tu sais, c'est pas la peine. Donc voilà, oui, je sais, vous avez pas la couleur, et ceux qui ne sont pas sur Toulouse connaissent pas Radio FMR, mais vous apprendrez à les connaître. Donc en attendant, eh ben, je vous passe un petit coup de stéréo total, là.
Cosmonaute.
décollage. On va vous parler d'une série... Ah oui, j'ai oublié de signaler. Donc, Giacomo C, la chanson des Guenilles, collection caractère, aux éditions Glénat de Jean Dufaux et Griffo. Donc, on va enchaîner sur un manga de Yasuo Tagaki. Yasuo Tagaki, je vais y arriver. Faut vraiment que je m'y remette, sérieusement. Moonlight Mile, le premier tome vient de sortir dans la collection Génération Comics, qui est édité par Panini France. Bon, allez, on n'est pas très loin, c'est vraiment c'est de l'anticipation, puisqu'on est à 3 à 4 années de là. Bientôt en panne d'énergie fossile, les États-Unis ont un plan. Après avoir terrassé Saddam Hussein, eh ben, on va mettre un pied à terre sur la Lune, comme ça, à nous, les importantes réserves d'Hélium 3, source pas chère pour lancer la fusion nucléaire. Des premiers pas éphémères dans l'espace, eh ben, on va passer à une présence durable. On va faire appel à des pionniers, des constructeurs, des bâtisseurs téméraires. L'américain Losman et le japonais Golo sont deux alpinistes chevronnés qui se connaissent bien, relèvent les défis ensemble par-delà les risques, très près de la mort. Fin d'une carrière, ils viennent de grimper l'Himalaya. Oui, ils l'ont vaincu. Déjà qu'ils ont fait grimper bien des filles au plafond. Il y aura rien de plus haut à gravir sinon l'espace. Alors justement, le programme IIS, la Station Internationale Orbitale, vient de se prendre un énorme coup de boost. Elle va être un marchepied pour conquérir la Lune. Et pour soutenir le programme spatial, il est fortement fait appel aux entreprises privées, alléchées par les royalties de la fusion nucléaire, prêtes à y déléguer leur personnel les plus compétents et casse-cou, comme Golo et Losman, justement. Si Golo se retrouve vite en tant que manipulateur, concepteur hors pair de grues et autres engins de levage dans le programme international, Losman va se faire capturer par l'armée de Saddam Hussein, son bombardier ayant été abattu au-dessus de Bagdad. C'est un copycat de l'excellent Planète, dont on a déjà parlé ici, mais 60 ans plus tôt, puisque l'intrigue est en 2010 et où la promotion s'obtient par la force de Popol. Car cette manga est littéralement fourrée jusqu'au bout de scènes olé olé, souvent totalement gratuites par rapport au scénario. Ouais, je sais, il est pas 22h30, mais promis, je ferai en sorte qu'il ne soit pas besoin d'apposer un macaron moins 16 en bas à droite de votre récepteur, au risque de paraître un peu rigide auprès des fidèles de cette émission, et qu'on est monté auprès de notre ancien maire, président du CSA, dont la calomnie n'a pas eu prise sur lui. Car pour ne pas faillir à ma réputation de rigueur, j'en ai fait la liste. Oui, enfin... Voilà quoi, vous savez que on tient absolument à être très pro dans cette émission. Vas-y, du sport. Non, je suppose que t'as vu un peu les premières pages. Enfin bref, page 8, trois anges du toit du monde lancés par-delà les nuages. Page 44, promotion panapée avec une directrice. Page 48, plat garni avec une serveuse dans une grue à 300 mètres au-dessus du sol. Page 56, entretien privé avec une supérieure hiérarchique. Page 89, catapultage d'une lieutenante de son porte-avions. Page 100, navette de nuit, direction 7e ciel. Page 154, danseuse élevée parmi les étoiles. Bref, c'est complètement inutile, donc complètement indispensable. Heureusement que le scénario n'est pas dénué d'intérêt à côté. Mais bon, vu comment on s'en va en l'air, ranger l'ouvrage hors de portée des gamins. En tout cas, moi, ça nous a bien fait rire. C'est vrai qu'il y a l'intérêt économique, l'intérêt politique qui transparaît justement dans Moonlight Mile. Mais à la différence de Planète, qui est édité d'ailleurs par le même éditeur dans la même collection, il n'y a pas justement tout le côté contemplatif de l'espace, tout le côté pionnier. Il passe complètement à côté par le côté un peu casse-cou. Ça fait un peu Space Cowboy par rapport au... Ben, c'était les le film Les Pionniers du Ciel, je sais plus. Du sport, non, bon d'accord.
Les Sentinelles de l'air.
Ouais, si tu veux, oui. Je vais y arriver. Enfin bref, moi je... Moonlight Mile, donc le tome 1 de Yasuo Tagaki, donc dans la collection Génération Comics chez Panini France. C'est sympa, c'est rigolo, c'est assez poilant, c'est vraiment pas pour les gamins, c'est clair. Après, moi, je préfère Planète. Planète, justement, donc, on en est resté au quatrième tome. Faut dire que le mangaka est assez lent dans la production. Par contre, la série qui était produite par la NHK, dont j'ai dit le plus grand bien, puisqu'elle est absolument superbe, va arriver en DVD, normalement, chez IDP, si je ne me trompe, et serait diffusée par une chaîne publique. Donc, pour l'instant, on n'en sait pas plus, et ça reste à voir. Et justement, à propos de l'ISS, excusez-moi, la station spatiale internationale là, qui flotte au-dessus de nous à 350 km d'altitude, eh ben, l'envoi à la casse des navettes spatiales américaines après 30 années de bons et explosifs services, puisque quand même il y en a 2 sur 6 qui ont été transformés en chaleur et lumière. Et pour bientôt, normalement pas plus de 5 ans, et on savait déjà avant le dernier lancement qu'on n'aurait jamais assez de vols pour terminer justement la station internationale, qu'elle actuellement elle n'est pas autonome. Et malheureusement, donc les partenaires russes et américains ont abandonné leurs programmes respectifs de navettes, qu'ils soient déjà actifs comme le programme Energia chez les Russes ou complètement embryonnaires comme le programme Hermès. Pour l'ESA. Je vais y arriver. C'est un peu con, c'est un super mécano, totalement ruineux, qui va pas servir à grand chose, dont les scientifiques ont tant dit que l'intérêt scientifique était complètement ridicule. Bref, la NASA a perdu de sa superbe depuis 1986, le manque de moyens et de vision depuis le programme Apollo. Et ben, Apollo, justement, on va y venir juste après ça. Le programme Apollo, ben tiens, été 69, année érotique, été où trois hommes se promenaient sur l'astre de la nuit. C'est justement à ce moment-là que se déroule donc la nouvelle série Haven, scénarisée par Laurent Astier et dessinée par Stéphane Haven, le premier tome donc s'appelle Les Lois de l'Attraction. C'est dans la collection Turbulence chez Vent d'Ouest, et donc nous sommes sur Terre en juillet 69. Deux hommes, copains comme cochons, décident d'apprendre à voler. C'est l'instant sans aile du plomb qui surplombe leur village à 235 mètres. Deux suicides. Mais de gens du coin, ben, ça a plutôt tendance à étonner dans la région. Tout le monde se connaît dans ce microcosme, tout le monde semble s'aimer dans cette riante vallée, et que du bonheur, quoi. Saint-Jean en Avin, connu pour son eau minérale, l'Avin, que maintenant on va exporter jusqu'en Amérique, s'il vous plaît, monsieur. Le maire a décidé de faire venir de la capitale un inspecteur de police, il s'appelle Léo Walek. Travail de routine puisque de nombreux désespérés se suicident à partir de cette hauteur qui ferait rêver n'importe quel amateur de Benji. Et vu le nombre de sauteurs sans élastique, la morgue du village est parfaitement équipée, érodée, je vais dire, pour ce genre de mort totalement accidentelle et stupide. L'enquête sera vite bouclée pour le grand saut du lièvre, le facteur du village, et du père Chaudron qui lui est le sculpteur qui vit justement avec le lièvre. Si les premières 24 heures de Walek dans le village ne l'aiguillaient pas sur de très nombreuses histoires où il est fréquemment question de bagatelles et autres grands sauts. Un roman policier d'atmosphère dans un village bourré de personnages hauts en couleur. L'intrigue est complètement secondaire. C'est la découverte de Saint-Jean-en-Avin qui importe ce village où il pleut des hommes et où les corps s'enlacent à l'horizontale. Les lois de l'attraction en somme. Il est 12h30 sur Radio FMR, l'heure de vous passer la pub sans ménagement. Allez hop.
Tu cherches l'impulsion cet été, sache qu'elle pourrait te venir du Médoc. Les Impulsives, festival de musique actuelle, se tiendront les 29, 30 et 31 juillet en la citadelle de Cussac-Fort-Médoc. Au programme, le vendredi, soirée drum and bass avec les prestigieux Fresh, G-Magic, Flobé, Elisa do Brasil, épaulée par MC Jamalski et Dynasty, Miss Ficelle et MC Reniga, Xindamix et Cliff Barnes. Le samedi, trois scènes, trois sons, une techno avec la fine fleur du label allemand Compact et le Chicago Boy Jeff Miles. Une autre, Dub Trance, où se produiront entre autres les improvisateurs Dub, Brain Damage, Chaophonic Tribu. Et enfin, une scène hardcore avec Manu le Malin, Radium en live, 69 dB et MC Tabloïd, Dayan et bien d'autres. La fête se finira en beauté avec les prestations dominicales des Too Many DJs, du Aker et de Jennifer Cardini. Les Impulsives, c'est rien que du bon, les 29, 30 et 31 juillet à Cussac-Fort-Médoc.
Je crois que c'est ça qui a dû me foutre la haine, c'est de savoir que j'ai loupé G-Magic hier pendant que je préparais cette émission, que j'ai pas vraiment eu le temps, enfin bon, c'est déplorable. Bon, ben, du sport va parler télévision, ça tombe bien. Tu m'avais dit qu'il y avait un cadavre sur la route.
Ouais.
Je sais pas, je me suis dit, on parle à années 60, donc je me suis dit, allez hop, on va faire.
Il n'y aura pas besoin d'enquête hein, pour résoudre le décès d'Edouard Bunker, qui s'est éteint pas plus tard que la semaine dernière. Hein. La semaine dernière, donc j'avais également loupé le coche, hein, comme je l'ai fait pour Ed McBain, mais enfin là, on est un petit peu excusé. Je suis plus excusé parce que on était en semi-vacances, il n'y avait pas d'émission. Enfin bref, on a passé le tour. Et là, quand même, Edouard Bunker, pourtant qui, du point de vue littéraire, a pondu mais vachement moins de bouquins qu'Ed McBain. Hein. Ed McBain, c'était vraiment le stacanoviste. Hein, genre, il a écrit, je crois, plus d'une quatre-vingtaine de bouquins édités.
Oui, hein, c'est
grosso modo, hein, sans compter les nouvelles, sans compter les articles dans les journaux, hein, ses rubriques et tout ça. Ed Bunker, lui. C'est un petit peu logique parce qu'il vient pas du tout du même monde et il n'a pas du tout eu la même enfance. Edouard Bunker, on le connaît parce que son premier livre, Aucune bête si féroce, No Beast So Fierce, dans la version originale, est publié en 73, hein, pendant son incarcération à Marion, Illinois, prison de haute sécurité.
Ah ouais?
6 ans pour braquage de banque, libéré en 75. Il a écrit La bête contre les murs, son deuxième livre, donc, pendant son séjour à Marion, hein. Et c'est un récit qui est un petit peu romancé de ses expériences passées au trou, que ce soit à Marion, où il est, pendant qu'il écrit ce livre, ou que ce soit à Saint-Quentin, où il a déjà passé 6 ans de son, de la fin de son adolescence et du début de son âge adulte. Après avoir été passé par de nombreuses maisons de redressement, après s'être déjà évadé de prison, après avoir été condamné pour recel, pour cambriolage, pour trafic de drogue, de nombreux pour également pour tentative d'évasion, 2 fois il essaie de s'évader, 2 fois il se fait reprendre, et tout ça, il essaie de le retranscrire.
Ça a dû être un sérieux client pour France Dimanche, le nouveau détective et compagnie.
Gros client. No Beast So Fierce, c'est ce que disait d'ailleurs. James Ellroy.
Oh
c'est ce que disait James Ellroy à François Guérif, le directeur de la collection Rivage, hein, qui sort les meilleurs polars, on va dire actuels, hein, en ce moment. Hein, Denis Lehane, tout ça, toute la bande, ils sont tous là-bas. C'est James Ellroy en même temps qui a fait un petit peu la gloire, hein, de cette maison d'édition spécialisée au départ dans le polar, dans les écrits noirs, grâce justement à toute la série des Ellroy, hein, qui a vraiment bien boosté. Quand même cette petite maison d'édition, créé par François Guérif, et Guérif justement qui demandait à Elroy s'il connaissait pas un mec pas trop connu qui serait susceptible de publier, et Elroy lui disait mais no bis so fierce, et Guérif a dû rechoper le bouquin hein, qui était donc paru en 75, mais enfin bon, les bouquins aux États-Unis hein, parus dans des maisons d'édition moyenne, on va dire, bah il faut se les repérer Opus tout simplement, et donc il a dû racheter un bouquin Opus pour pouvoir se fournir, pour pouvoir repérer le bouquin, pouvoir le lire et faire parvenir bien entendu hein, des contrats d'édition à Bunker pour la France et pour la maison Rivage, qui a sorti bien entendu l'ensemble de la production d'Ed Bunker avec La Bête au Ventre, qui est sorti en 82, il est sorti de prison en 75, et depuis 75, il s'est tenu à carreau, hein, c'est-à-dire que bon, bah, son bouquin, avait fait de lui une espèce de petit mythe au niveau national à l'intérieur des prisons, hein. On savait qu'il avait appris à lire pendant son premier séjour à Saint-Quentin, et il avait commencé à bouquiner à fond les manettes parce que durant son enfance et son adolescence, entre son père castagneur qui se tire toutes les gonzesses qui passent et sa mère alcoolique, c'était pas évident, hein. Dans les maisons de redressement, c'était pas top. Non plus, on va dire, et c'est en prison qu'il a commencé à lire, à se passionner pour la lecture et pour l'écriture, et a commencé à faire des petits essais. En 75, donc, il sort du trou, et il sort encore un troisième livre tiré de cette trilogie, donc, hein, la trilogie des bêtes, La Bête au Ventre, qui sort en 1982. En 78, déjà, eh bien, il y a son premier roman qui est adapté au cinéma, Aucune bête si féroce, sous le titre Street Time, ou Le récidiviste en français, et dans le rôle titre, eh bien, on retrouve, dans le rôle principal, on retrouve Dustin Hoffman, l'époque, déjà. Ed Bunker, on le voit apparaître, là, je te montre sa photo, alors là tu vas reconnaître, c'est une tronche, hein, de toute façon ce mec-là, on le voit apparaître dans Reservoir Dogs, hein, c'est Mr. Blue dans Reservoir Dogs, bon on le voit au début du film et puis après il disparaît, hein, mais c'est bien lui, hein, que tu vois, Mr. Blue, c'est lui. Et on le voit également apparaître dans Animal Factory, qui est une autre adaptation d'un de ses livres, La Bête contre les Murs, le fameux film qu'a sorti Steve Buscemi avec Edward Furlong dans le rôle principal, et donc Ed Bunker qui joue le rôle, un petit rôle hein, de détenu juste à la fin du film. C'est en fait c'est le détenu qui lui file, je crois, les clés qui lui permettent de passer. Si t'as vu le film Animal Factory, à la fin il réussit à se tirer parce que bon bah il se planque dans un camion poubelle, dans la merde, dans les poubelles dégueulasses, les trucs dégueulasses. Il se planque et en fait il doit passer une grille. Et pour passer cette grille il faut une clé. Et cette clé, il y a un seul détenu qui l'a, c'est le mec qui s'occupe de machin, et ce détenu est joué par Edouard Bunker. Après cette trilogie, La Bête des Bêtes, Aucune Bête si féroce, donc je rappelle, La Bête contre les Murs et La Bête au Ventre. Alors Aucune Bête si féroce, ça retrace un petit peu sa vie quand il est en dehors et qu'il se fait choper. La Bête contre les Murs, c'est vraiment quand il est dedans, du début jusqu'à la fin du roman. Et La Bête au Ventre, hein, c'est un petit mélange des deux. Il faut savoir que quand même, La Bête contre les Murs est située avant, dans le temps, par rapport à Aucune Bête si féroce, dans la vie d'Edouard Bunker. En 94, un nouveau bouquin paraît, c'est Dog Eat Dog, Les Hommes de Proie, qui est le premier, regarde, c'est par là que ça se passe, est le premier Bunker qui n'est pas un roman autobiographique à fond les manettes, hein, dans lequel les personnages sont fictionnels, mais enfin bon, on retrouve bien entendu le monde familier et l'analyse hein, de ce monde un petit peu familier d'Edouard Bunker avant sa réhabilitation. En 2000 sort Education of a Felon, l'éducation d'un malfrat, qui est là, et un petit peu le condensé de ce qu'on a dans les trois premiers, à savoir Aucune Bête si féroce, La Bête contre les Murs et La Bête au Ventre. Ça raconte un petit peu son histoire. Il commence vachement loin, hein. Il est mort, il avait 78, je crois, ou 79 balais. Il est né dans les années 30, donc, et ça commence dans les années 30, ça s'arrête en 1994, il raconte un petit peu sa vie, avec un petit peu plus de liberté, hein, c'est un petit peu moins romanesque, hein. C'est fait d'anecdotes, c'est fait de petits passages, de sa vraie vie, des vrais personnages qu'il a rencontrés, qui l'ont fait un petit peu dévier, qui l'ont fait comprendre certaines choses, qui l'ont aidé, ou qui ont été franchement des enculés avec lui, bref, tout ça, bah, c'est dans ce bouquin, L'éducation d'un malfrat. C'est un petit peu un livre qu'on pourrait conseiller aux gens qui se posent des questions sur ce monde-là, qui se disent comment on fait pour passer de l'autre côté. ça apporte beaucoup de réponses, on va dire. Ça n'apporte pas toutes les réponses, mais ça apporte beaucoup de réponses. Et ça peut également apporter quelques solutions pour éviter de passer de l'autre côté, justement. Pas trop y être, on va dire.
Tu penses que ça devrait donner des idées plutôt que le tour répressif, là
Pas du tout. Enfin, bien sûr. Mais attends, c'est quand même vachement énorme. Hein, c'est assez énorme, de toute façon, quoi. Et je vais terminer cette nécro d'Edward Bunker, donc Rest in Peace, paix à ton âme, par les dernières lignes de son éducation d'un malfrat, c'est-à-dire les dernières lignes qu'il ait jamais écrites, enfin qui soit édité. Actuellement, je suis le père d'un petit garçon de 5 ans, beau, extrêmement intelligent et exubérant, ma fierté, ma joie. Nul ne peut dire ce qu'il pensera de son père, mais les cartes que nous lui avons données sont infiniment meilleures que celles que le destin m'a attribuées. J'aurais pu jouer les miennes de meilleure façon, sans aucun doute, et il y a des choses dont j'ai honte, mais lorsque je me regarde dans un miroir, je suis fier de ce que je suis. Les traits de caractère qui m'ont fait combattre le monde sont aussi ceux qui m'ont permis de m'imposer. C'est ainsi que se termine donc ce livre d'Edouard Bunker, L'éducation d'un malfrat. Allez, un petit peu de musique, on va, hein.
Ouais. Là, c'est... Sur la prog, c'est un peu au hasard, et du coup, je me suis arrêté sur l'album Nouvelle Vague. Est-ce qu'ils paraissent sont en concert, donc peut-être qu'il y aurait un deuxième album de reprise. Trop bourré pour baiser.
Oui, dégueule pas vraiment.
Si.
Went to a party. I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But now I'm jaded. You're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk. Your gun shooting out cop towers sounds like loads and loads of fun. But in my room, wish you were dead. You ball like a baby in a razor head. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk.
Sale bête, armée.
Ah voilà.
Non, je me suis trompé, c'était pas celle-là. C'est ça que je voulais passer pour la suite.
Ah voilà.
Excusez-moi, c'est un peu folklore aujourd'hui. Vous écoutez Radio FMR, il est midi 44. Et c'est supplément week-end et du sport, donc on va entamer la télévision.
Yes. Alors je récapitule vite fait pour Bunker, donc Edouard Bunker. Si vous voulez lire, il y a pas beaucoup de bouquins, il y en a 5 édités. Soit c'est la trilogie de la bête, vous commencez par Aucune bête si féroce, c'est le meilleur des trois de toute façon. Ici, il t'envoie une claque dans la gueule quand tu lis ça. Ça va quoi, c'est puissant quoi. Sinon, pour se faire une bonne idée, Éducation d'un malfrat aussi est pas mal. Avant d'attaquer justement la trilogie, pour se donner une petite idée, mais vraiment la trilogie de la bête, surtout Aucune bête si féroce, ça tue vraiment de l'enfer. Du manga, ça te plaît, animé?
Ouais.
Hein. Leiji Matsumoto, ouais. Interstellar, ouais.
Oh, pas que. Oui, bon, d'accord. Ok. T'as dit Interstellar, ok. Allez, hop.
Ah non. Merde.
Eh si.
Allez mon gars.
Bah ben, vas-y.
Là, il ne s'agit pas de l'espace, si, il s'agit de l'espace, mais de l'espace sous-marin, avec Super Submarine 99, tiré d'un manga éponyme de Leiji Matsumoto. Là, il s'agit du manga animé, c'est pas du tout fait par lui, rassurez-vous, hein. non, c'est quand, c'est dommage. Mais enfin, c'est l'histoire de Susumu Oki, qui est aux commandes du sous-marin hyper sophistiqué qui s'appelle Submarine 99, et qui est à la recherche du mystérieux empire de l'océan, qui souhaite conquérir la planète. Et en même temps, en fait, il nourrit le secret espoir de retrouver son frère et son grand-père qui sont disparus au cours d'une mission similaire. Ça se laisse voir et ça se laissera voir tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, sur France 4 à partir de 18h30.
Je crois me tromper, mais je crois que ça venait d'être diffusé sur Game One.
Ah, ben c'est pas grave, là c'est Game One, c'est quand même le câble ou satellite. Là, il s'agit quand même de la TNT, mon gars.
Bon, alors c'est pas un Leiji Matsumoto qui est quand même le créateur d'Albator, le créateur de Cosmo Warrior Zero qu'on a vu avant justement dans France 4, puisque là ils ont décidé de faire ouh, allez hop, on passe tout Leiji Matsumoto. C'est pas non plus ce qu'il a fait comme mince Galaxy Express 999 et donc on a parlé aussi de son adaptation de la trilogie de Wagner. Tétralogie de Wagner, pardon, excusez-moi, oui, je sais. Ah. En tout cas, c'est, on retrouve une ambiance, mais il n'y a pas le ton très tragique qu'il émet d'habitude. On sent qu'il n'est pas derrière le scénar et tout ça, mais il y a son style graphique, on le retrouve et on accroche pas. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu cheap. Voilà.
C'est, on va dire, réservé aux plus jeunes d'entre nous, hein, on va dire.
Oui, sachant que c'est bizarre parce que Albator, là, par contre, c'était vraiment adulte.
Ouais, ça envoyait sec.
Hein,
c'est pas Albator, hein, c'est pas la même chose, hein, c'est plus léger, on va dire. Hein, d'accord. Oui. Super Submarine 99, donc. C'est du lundi au vendredi à 18h30 sur France 4. Un petit spécial guerre, hein. Ils se sont dit à la télé, dans les différentes chaînes, ouais, ce serait pas mal, là, ils sont tous endormis, là, on va leur en foutre plein la vue, on va leur faire péter la gueule, avec de bonnes vieilles images d'archives, avec de bons vieux docu bien saignants. Alors c'est dû aussi un petit peu à la date, hein. Faut se rappeler que le 6 août 45,
ça fait 60 ans, oui.
Ça a pété grave, pour le plus grand malheur de toute l'humanité, faut bien le dire, hein, la première bombe a pété contre des d'autres personnes, contre des civils, hein, oui. Vous connaissez l'histoire. Alors, ils en profitent justement pour nous faire plusieurs émissions sur ce sujet. Hiroshima traité de différentes façons, c'est généralement du téléfilm documentaire traité soit avec beaucoup de fiction, avec des interprètes, c'est-à-dire des acteurs qui interprètent des personnages ayant existé, soit avec des images d'archives trafiquées, des effets spéciaux. Maintenant ils commencent à faire les choses très très bien. Mais avant de parler d'Hiroshima, France 2 qui se dit on va pas être en reste, nous propose dès demain, carrément deux fois la Seconde Guerre mondiale, avec déjà à 15h15 demain après-midi D-Day, leur jour le plus long, un téléfilm documentaire britannique de l'année dernière, 2004, avec des images d'archives, des témoignages concernant justement le jour du débarquement en Normandie. C'est demain à 15h15 sur France 2, qui récidive à 20h50, mais sur l'autre front, le front du Pacifique. Dans cette excellente série, moi je trouve que c'est une série qui est excellente, hein, parce que c'est des images qui sont généralement inédites en couleur. C'est cette fameuse série, ils ont filmé la guerre en couleur. Et eu un thème qui est le Pacifique, c'est-à-dire c'est l'autre côté, hein, c'est les ricains contre les sales brisés, allez attaquer les Stuka, non c'est les zéros, pardon, les Stuka c'était les
c'est les Allemands. Oui.
je m'emporte.
On va avoir des ennuis avec Mitsubishi.
Commentaire d'André Dussoli. D'André Dussolier, et avec la participation, ils sont pas cités, hein, mais on sait que beaucoup de grands cinéastes hollywoodiens ont participé à l'effort de guerre en se rendant sur le front, ou pas tout à fait sur le front, un petit peu derrière comme ça, et en filmant ce qui se passait et en apportant leur bagage technique, on va dire, et leur bagage culturel au niveau du filmage de la guerre. Et là ils l'avaient en direct en plus, hein, donc c'est demain soir à 20h50 sur France 2. Sinon, du côté de Hiroshima, vas-y mon gars, Arte, ce soir, et et demain soir, hein, 2 fois 1h40 à se taper sur un espèce de téléfilm documentaire qu'on a déjà pu voir, car il date de 95. C'est un téléfilm canado-japonais, ouais, les deux ennemis jurés de l'Amérique, de Roger Canada. Ah si si, bah. aux États-Unis, il faut savoir que les vannes sur les Canadiens, c'est l'équivalent c'est des vannes sur les Belges.
Ouais. Alors bon, bah d'ailleurs, hein, dans South Park, il y en a plein des.
Et c'est con parce que leurs meilleurs acteurs, généralement, c'est des Canadiens. C'est vrai en plus, hein, c'est vrai. Hein. C'est vrai, je peux t'en citer une tapée. Hein. Mike Myers, Donald Sutherland, Jim Carrey, il y en a plein. Alors Hiroshima, donc sur Arte, ce soir et demain soir à partir de 20h40. Alors c'est filmé quand même par du lourd du côté canadien, c'est Roger Spottiswoode qui est pas n'importe qui, et du côté japonais par Koreyoshi Kurahara. Il y avait des interprètes bien entendu, hein, demain soir, à noter que c'est diffusé la deuxième partie donc de ce documentaire Hiroshima dans le cadre d'une théma, hein, ouais. Hiroshima, avec à 22h un petit documentaire qui va nous ravir parce qu'il s'agit d'un paradis radioactif, un documentaire sur les essais nucléaires français dans le Pacifique. Merci.
Allez.
Et à 23h20, comme Arte, c'est la chaîne franco-allemande, le secret perdu de Hitler.
Ja, ja.
Der verlorene Geheim von Hitler, voilà, version originale.
À 23h20,
donc, hein, ouais. Où c'est un documentaire sur. Il recherche en fait en Norvège et là où il faisait le Lourdes, un documentaire qui recherche pour savoir, il cherche à savoir jusqu'où est arrivé, où sont arrivés les scientifiques et Hitler et toute la bande dans la fabrication de cette fameuse bombe qui, bon bah s'il l'avait fabriquée avant les autres.
C'était pas un Télémark en Norvège.
Entre autres. Voilà donc alors tout ça c'est c'est demain soir 23h20 c'est dans le cadre de ce thème sur Arte. Toujours de la guerre jeudi prochain. Alors ce qui est vachement marrant c'est que ils te foutent du Hiroshima à fond les manettes. Alors déjà, le 6 août, c'est samedi prochain, d'accord. Donc on aurait pu se le faire carrément samedi prochain, pourquoi pas, à la place de le faire là ce week-end. Hein. Merci Arte, ça c'est pas bon. Et alors, encore plus gros carton rouge à TF1, qui fait carrément bien pute, en diffusant un super documentaire sur Hiroshima, complètement inédit, hein, qui a nécessité presque 2 ans de travail, 3 mois de tournage, ils ont dû reconstituer des trucs, alors il y a des images d'archives, des effets spéciaux, des reconstitutions, des témoignages, enfin un truc qui cartonne à fond les manettes, c'est jeudi prochain sur TFA à 20h55, pourquoi ? Parce qu'on va quand même pas niquer la soirée du samedi soir avec ces conneries, non ? Il faut que les gens rigolent le samedi, voyons, on va pas leur foutre un truc comme ça.
Ils arrivent pas à descendre Sébastien le samedi, alors ils savent pas quoi faire.
Sébastien c'est sur la 2, c'est pas sur la
2. Bah oui, mais ils arrivent pas à le descendre.
Donc voilà, donc là, carton rouge quand même. Enfin, c'est jeudi prochain sur TF1 à 20h55. Sinon, t'as envie de faire une pause ou on attaque, on continue?
C'est toujours sur Hiroshima.
C'est bon, la guerre, c'est bon.
Bah, alors, j'aurais juste une chose à dire, c'est la programmation sur les télévisions japonaises sont assez étonnantes parce que justement, il y a plein de fictions, de documentaires là-dessus. Alors, il faut savoir qu'actuellement, le premier ministre japonais, il est pro-américain puisque il a réussi à envoyer des soldats japonais à l'extérieur du territoire en mission. C'est la première fois que c'est arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale.
Ils sont en Afghanistan, nous sommes les Japonais.
C'était pas des soldats qui étaient en Afghanistan, c'était des civils. Et là, ils ont envoyé en plus, des soldats donc en Irak. Et il est question d'augmenter le contingent là-bas puisqu'il y a eu des défections d'autres pays. Donc je peux te dire qu'en ce moment, il est très malmené par la droite. Il a demandé et il y a eu des pressions, d'après ce que j'ai compris, sur les chaînes de télé locales. Pour on se calme un peu, hein, on sait, oui, il y a 60 ans d'Hiroshima, bref, ça. Donc actuellement, j'ai des copains qui ont publié des t-shirts. Je ne suis pas américain.
Ouais, il y a
donc
aussi.
L'ambiance est assez délétère.
J'ai oublié de le noter, mais il y a également cette semaine, là, ça risque d'être un peu plus intéressant. Encore un documentaire consacré à Hiroshima, c'est sur France 5. Guettez les programmes de France 5 la semaine prochaine.
De toute façon, ça va être bondé.
Car il s'agit d'un documentaire réalisé par un japonais. Voilà. Allez, comme ça, bah, on aura les plusieurs points de vue. Hein. C'est toujours plus intéressant. C'est sur France 5. J'ai oublié de le noter parce que je l'ai repéré vraiment tout à la fin avant de partir. Et là, j'étais un peu à la bourre, hein, franchement, quoi. Donc, une petite pause musicale ou alors
Tu veux un truc soft là? Non, j'ai dit soft. Ah, oh, punaise. Excusez-moi, hein, parce que là, on est vraiment sur le minimum, si je puis dire. et c'est assez pénible, donc je suis en train de chercher dans mes collections rapidement. Oh, allez, mince. Un Kelly Joyce. Hein. Oui, je sais, c'était de la bouse, de la merde, etc. Mais c'était assez joli. Et puis, ouais, ah, merde. Ah, oh, voilà. Abandonne hein, du sport, c'est pas la peine de jouer au mécano.
Non.
Là, il faut vraiment Goro et Lost Man là de Moonlight Mile hein, pour y arriver. C'est même pas la peine. Donc un peu programmé en impromptu, les Toits de Paris de Kelly Joyce. Hein.
Allez, un petit peu de docu encore, mais là, il s'agit de documentaire dans cette série dont j'ai parlé la semaine dernière qui s'appelle Histoire de fiction. Sur France 3, 23h25, mercredi prochain. Bon, c'est toujours très tard, c'est con, mais bon, on est en vacances, donc on peut se coucher un peu plus tard, on va dire. Et si mercredi dernier, bah, c'était consacré au polar, hein, à la télé française, deuxième partie donc de ces histoires de fiction est consacrée aux comédies sentimentales. Ouais. Quelle classe.
Tiens, c'est marrant, j'ai fait une bonne prog là.
Les Saint-Chéri et tout ça, enfin plein de trucs comme ça. Ouais, mais ça remonte donc à l'historique de cette télé française depuis ses débuts. C'est sur France 3, mercredi prochain, 23h25.
Non, pardon, je déconne.
sinon, rediffusion, hein, là c'est vraiment du vrac hein, quand même, avec Brigade des Mers, ouais, tu connais Brigade des Mers. Cette excellente série australienne ou néo-zélandaise où ça se passe avec des bateaux ou toujours au bord de l'eau, hein, de toute façon, c'est la brigade fluviale, enfin maritime.
on va dire, hein, où ils sont.
Je crois que c'est australien parce que ça se passe à Sydney, il me semble.
Ah bah ouais, c'est possible. Là, tu es sûr?
Ah, il me semble.
Attention,
ouais.
Hein, y en a d'autres qui se passent à Sydney justement, faut pas confondre. Et c'est diffusé, ça a été diffusé bordéliquement, hein, de toute façon, hein, soit par RTL9, soit il y avait la 3 aussi. France 3 qui avait diffusé des épisodes, mais enfin bon, c'était pas dans l'ordre et tout. Alors qu'il y a un ordre, hein, il faut savoir que bon, bah, il y a des histoires privées, des histoires de cul, d'autres histoires qui ont une continuité sur le. D'épisode après épisode.
Et donc,
quand on mélange, comme l'ont fait justement ces chaînes, bah, ça donne vraiment n'importe quoi. Et là, c'est rediffusé sur Match TV, donc
avant de Blue.
Ouais. Profitez-en, il reste un mois là. Tous les jours de la semaine, du lundi, mardi, jeudi, vendredi, à 15h30, 15h35, on va dire, sur Match TV, Brigade des Mers. Donc, sinon, il y a une autre série policière dont j'aurais dû vous parler depuis longtemps, on va dire, hein, et que je n'ai pas du tout évoqué parce que c'est une série italienne. Mais qui a comme personnage principal, eh bien, on va dire l'équivalent italien de Maigret, hein, commissaire Montalbano.
Oui, mais c'est une bonne production en plus, c'est
bonne
bien
production,
foutu.
Excellente production, ouais. Hein, complètement italienne, hein, comme quoi les Rital, ils peuvent faire des trucs vraiment très très bien quand ils veulent, que ce soit des séries, on connaît aussi au niveau des films pas mal de bons jeunes réalisateurs. Là, c'est la série Commissaire Montalbano. Hein, c'est l'histoire d'un commissaire, hein, qui opère dans une petite ville en Sicile. Alors, c'est bien parce qu'il y a toujours des gimmicks. Hein, dans chaque épisode, enfin, les épisodes, bon, c'est quand même des mini-téléfilms vu qu'ils font 1h40. Là, suite demain soir sur 13e rue à 20h50, ça s'appelle Chien de faïence. Il a été tourné en 2001, diffusé en 2001, avec dans le rôle principal Luca Zingaretti qui joue le rôle du commissaire Montalbano. Et ce qu'il y a de bien, c'est que bon, ben, il y a les gimmicks, hein, qui sont propres à un bon personnage. Hein, qui, et là, les gimmicks dans chaque épisode, il se fait draguer par une femme belle et ténébreuse qui est mêlée à la ferme. Enfin bon, qui craque pour lui.
Oh, hein, bah,
bon,
tiens.
Faut dire qu'il est pas trop moche, quoi. Le mec, il a son genre, quoi. Mais le problème, c'est que à la fin de chaque épisode, bon, il revient toujours vers celle qu'il aime, mais qui n'est pas avec lui, n'habite pas avec lui, cette magnifique maison avec une terrasse qui donne sur la mer. Eh oui, elle habite ce qu'ils appellent là-bas le continent, c'est-à-dire l'Italie. Et il y a toujours les histoires où bon bah la mafia vient s'en mêler, c'est normal, on est en Sicile. Oh bon, attends, on va pas trop parler de ça. Oh bon, bah on peut laisser tomber alors carrément. Vraiment, il y a une petite ambiance comme ça qui est vraiment très très sympathique. Donc c'est Commissaire Montalbano sur 13e rue, ça passe tous les dimanches, hein, de toute façon, dimanche à 20h50, donc demain soir 20h50. Sinon, alors là du côté on va dire un petit peu daube, quoi, mais enfin bon, on aime bien si. Déjà, il y a une mini-série, on va appeler ça comme ça, vu qu'il s'agit de téléfilms d'une heure trente, il y en a 6 en tout, hein, donc c'est déjà de la grosse saga. Et là, c'est vraiment la daube de l'enfer, ça c'est ma femme qui m'a dit. Parce qu'on l'a ça a déjà été diffusé. Et là, c'est M6. Hey, hein.
Attends, une daube, c'est meilleur quand c'est réchauffé.
Ouais. Et c'est M6 qui nous propose ça, donc tous les dimanches, il va y en avoir pour 3 dimanches consécutifs, hein, partir de 13h20 tout l'après-midi. C'est Pasadena, avec les deux premiers épisodes demain, c'est avec Alison Lohman, Dana Delany, Martine Donovan, et Balthazar Getty. Et ouais, c'est celui dans la famille Getty qui a voulu faire une carrière un petit peu zarbi dans le monde du show business et du cinéma, et qui réussit ma foi fort bien. Alors si vous voulez voir Pasadena, ne serait-ce que pour la bonne prestation de Balthazar Getty, ça vaut le coup, hein. Ça lui a permis, je crois d'ailleurs, un Pasadena, de pouvoir tourner des apparitions comme ça dans des séries un petit peu plus huppées, hein, genre invité et tout ça. On l'a vu dans des séries quand même un petit peu plus, je crois dans Boomtown, on le voit à un moment dans un épisode, me semble-t-il. Bref, ça vaut le coup uniquement pour lui, vraiment uniquement pour lui, hein. C'est demain donc, et pour 3 dimanches consécutifs sur M6 à partir de 13h20. Sinon, on a du Michael Dudikoff, il est de retour.
Pas le mec le plus improbable de... Non,
tu confonds avec Jeff Fahey, là.
Attends.
Michael Dudikoff est de retour dans un téléfilm qui passe demain soir sur RTL9 à 20h45 qui s'appelle Retour de Flamme. Michael Dudikoff, dans ce film, est conseiller technique sur une plateforme pétrolière.
comme il aime bien les Curtis, ce coup-là, il est avec Todd Curtis, avec Keren Tishman et avec Robert Lee Hermey, quoi, qui, c'est toujours bien d'avoir Robert Lee Hermey, quoi, parce que ça fait une gueule, ça fait un personnage, ça rebooste un petit peu, on va dire, le scénario. Robert Lee Hermey, c'est le sergent instructeur dans Full Metal Jacket, quoi, faut pas l'oublier, quoi. Donc ça va, ça donne quand même, Michael Dudikoff, donc c'est demain soir. Retour de flamme, mais, il y a encore du Dudikoff mercredi prochain.
Je ne trouve pas ce putain de générique de K2000, fait chier.
Sur TF6, donc à 20h50, ça s'appelle Prime de risque. Et là, bien, Michael Dudikoff joue le rôle d'un chasseur de primes. Et là, comme il aime bien les Curtis, ce coup-là, il est avec Tony Curtis, Lisa Howard et Steve Bachick. Mercredi
prochain.
Non,
mais attends, mais c'est quoi
ce. 20h50.
C'est quoi ce plateau? Non, mais attends, mais il fait tâche, là. Qu'est-ce qu'il fout, là?
C'est Michael Dudikoff.
Oui, c'est le cas de le dire.
Alors, je voulais vous parler aussi vite fait d'une série qui est diffusée sur TFC, justement, on y est encore, on y reste, du lundi au vendredi de la 17h55, je suis vraiment tombé dessus par hasard, un coup, puis je me suis dit, putain, mais je connais ce mec et tout, et il s'agit de Jack le Vengeur masqué, ouais, ça vous dit rien du tout. Alors, c'est interprété, coproduit par Bruce Campbell, Briscoe County, Bruce Campbell, Evil Dead, bien sûr, absolument, le pote de Sam Raimi, et Sam Raimi d'ailleurs est coproducteur, comme il l'avait fait pour l'autre série, on voit Bruce Campbell apparaître, Hercule et Xena, bien sûr, c'est la même bande, Robert Appert, Sam Raimi, qui ont fait donc ces séries qui resteront intemporelles, bien entendu.
Ouais, j'aurais dû me méfier vu le niveau de nanardise de la série.
Après Briscoe County, qui était déjà un monument, faut bien l'avouer quand même, au niveau délire, on a Jack le Vengeur masqué. L'intrigue, le personnage de Jack, interprété par Bruce Campbell, on va dire que c'est un peu Zorro. De toute façon, il a même loup, hein. Il a les sables qui changent un peu, vu que la période est antérieure à celle de Don Diego de la Vega.
Si.
Parce qu'en fait, dans cette série, il s'acharne à combattre l'envahisseur français aux États-Unis.
Donc, et tu merde. Vois,
ça date du siècle précédent. Alors, ça se passe également dans ce pays, dans un pays du Sud. Et Jack, le Vengeur masqué, il passe sa vie entre le fait de draguer un petit peu et le fait de, à chaque épisode, de sauver le village, de sauver la belle, de sauver l'arrivant, du joug de la dictature et de la tyrannie française personnifiée par un capitaine des gardes qui est particulièrement, caricatural. Faut dire que c'est généralement assez poussé, même les performances de Bruce Campbell en tant que Jack sont assez poussées. Et on voit que la série est assez récente parce que Bruce Campbell a quand même pris du vide, il doit quand même tirer sur ses 50 balais, le monsieur, et à le voir faire des cascades et à dégommer des mecs à la Jackie Chan, mais quand on a 50 balais et qu'on sait qu'on n'est pas Jackie Chan, bien que techniquement ce soit assez bien réussi, on peut dire que on va douter un petit peu, on va douter un petit peu quand même. Ça n'en reste quand même ça reste quand même une bonne série, on va dire, qui se regarde comme ça avec un petit second degré de temps en temps, qui est assez appréciable. J'aurais préféré voir la version originale, tout simplement pour apprécier un petit peu mieux les jeux de mots et les subtilités entre les Anglais, les habitants de là-bas, les Français, voir un petit peu quel genre de jeux de mots ils aient pu utiliser dans leur langue originale. Bon, enfin bref, c'est quand même assez bien foutu. C'est sur TF6 tous les jours de la semaine à 17h55. Jack le Vengeur masqué. Allez, on se termine par la semaine de match TV. Vous allez y avoir droit jusqu'à la fin du mois d'août.
Attends. Il faut un truc suffisamment triste.
Ouais, t'as pas la musique de Saga.
Oh putain, non.
Parce que cet après-midi, en fin d'après-midi sur Match TV, ne loupez pas ça, c'est rediffusé un peu plus tard dans la semaine, en deuxième partie de soirée, mais là, c'est cet après-midi, fin d'après-midi à 17h, donc il n'y a pas grand-chose à voir, si ce n'est North Shore sur TF1, ça commence à tirer un petit peu en longueur, avec Saga, Stéphane Bern, qui nous propose... 2 heures, pas une, mais 2 heures de saga avec la compile intégrale Monaco et les Grimaldi.
C'est beau, après-midi. Cette saison en plus.
Ouais, à 17h donc sur Match TV. Demain à 18h10, Un petit documentaire de 50 minutes avec Bill et Hillary Clinton à la Maison Blanche. Ça date un petit peu, hein, bien entendu. Mais c'est suivi dans le même ordre, dans le même état d'esprit de Gstaad, la montagne des stars, à 18h55 sur Match TV. Lundi, à 19h45, dans la série Amour de légende, on aura Jean Harlow et William Powell. Et à 22h20, ça reste entre nous, avec Jean-Marc Morandini qui reçoit entre quatre yeux un invité. Alors Moki, c'était pas mal, hein, vous l'avez loupé, c'était cette semaine. Et là, bah, on restera dans le domaine du non-dit. Et pas dit avec Jean-Jacques Vergès face à Jean-Marc Morandini.
Ça va être
encore un client. De toute façon, Morandini, il a pigé le système, hein. Il se tape des clients sans jeu de mots un petit peu déplacés. Et ça donne des trucs qui sont relativement intéressants. Ça reste entre nous, donc c'est lundi à 22h20 avec Jean-Jacques Vergès. Un autre client de Ça reste entre nous, mardi prochain à 18h20.
Qui est là pour défendre sa cause face à un inquisiteur.
Qui là, carrément, on le voit plus souvent sur les plateaux de télé à faire le con et à devenir un gimmick, on va dire, hein, pour plateau de télé, que de savoir ou d'écouter ce qu'il chante ou ce qu'il produit. C'est Francis Lalanne, Ça reste entre nous, avec Jean-Marc Morandini, donc mardi prochain à 18h20, suivi tard le soir à 0h50, mais j'ai quand même voulu vous le mettre parce que c'est dans la série Amour de légende, Ronald et Nancy Reagan. Mercredi 20h15, Sex in the City, qui est une émission récurrente, on va dire, hein, c'est un petit module de télé-réalité qui est diffusé tous les soirs pratiquement de la semaine. Télé-réalité, on suit des nanas, bon, relativement pas moches, hein, on va dire, plutôt mignonnes, dans leur approche de la jante masculine et comment elles font pour s'amuser, s'éclater, tirer un coup, sucer des bites, refuser le mec parce que j'embrasse pas la première fois et qu'il faut que t'aies la laine fraîche quand même, faut pas déconner, hein, et que t'aies au moins une limousine.
Attends,
ce genre de truc là, hein, télé-réalité avec, alors t'imagines un petit peu télé-réalité, c'est-à-dire t'as la nana, tu la suis avec la caméra, t'as le caméraman, le producteur, et la nana, elle va dîner en tête à tête avec un mec. Première, ils sont connus sur le net, et puis là, bon, bah, ils font connaissance pour la première fois. Hein. Alors aux États-Unis, la première fois, tu n'embrasses pas, tu vois.
Normalement, c'est la femme qui invite.
La deuxième fois,
c'est le mec qui invite.
Tu peux sucer, mais il faut attendre encore un peu.
C'est très
préférable.
C'est très codifié, justement, voilà, les rencontres codifié. Aux États-Unis.
C'est ça, Sex in the City, mais enfin bon, voilà. Alors bon, bah, c'est quand même complètement bidon, hein, on va dire ce qui est. Hein, de toute façon, hein, les nanas, elles sont relativement mignonnes, donc elles pourraient se tirer n'importe quel bourrin, n'importe quel cador. Mais elles cherchent vraiment le top gamme, tu vois. Hein, c'est-à-dire, bon, ok, hein, elles vont dans les boîtes. Oh putain, je vais peut-être revoir Tom Cruise, on sait jamais. Alors, ça, c'est Sex in the City, donc toujours sur Match TV. Jeudi sur Match TV à 20h45. Un téléfilm avec Famke Janssen et Clark Johnson. Ah mon gars, Model by Day. De Christian Duguay, qui nous a fait des films intéressants comme L'Art de la Guerre avec Wesley Snipes, Famke Janssen, qu'on a vu dans la série Nip Tuck, hein, un rôle excellent, vraiment, franchement bien joué. Et Clark Johnson, qu'on ne présente plus, hein, c'est l'inspecteur, attends que je me souvienne, je m'en souviens pas. Dans la série Homicide, celui qui a toujours son chapeau sur la tête, le Black, avec son chapeau.
Je ne suis pas, malheureusement.
Ah ben voilà, dommage. Bah, grande série, hein, Homicide. Vendredi sur Match TV, enfin on termine en beauté avec encore un spécial saga, les grandes familles. Alors là, t'as toutes les familles. laisse tomber, il y a la famille Guerlain, Rothschild. Alors là, bon, bah, il y en a partout dans tout le monde. Donc,
et puis en plus,
faire.
Ça fait un bail. Hein.
Ouais.
C'est noblesse d'empire, ça.
La famille Grus. Donc le cirque, c'est normal, hein. La famille Beretta, hein, c'est pas les flingues, je crois, hein, c'est l'agroalimentaire italien plutôt. La famille Eastman Kodak, qu'on ne présente plus. La famille Krug, Champagne, Duc de Richmond. La famille, bien sûr, quand on parle de famille, il y a toujours une saga pour les Kennedy, bien sûr. La famille Bernadotte, qu'on connaît moins, mais enfin bon, Stéphane Merne est un spécialiste, hein, des familles royales et de descendance. Et Bernadotte, d'ailleurs, c'est le mec qui est marié avec la reine du Danemark, me semble-t-il, hein, ou la reine des Pays-Bas, enfin voilà, Bernadotte, si. Et la famille de Broglie, ou de Breuil, hein, quand on prononce bien, on dit de Breuil, tu vois. Et quand on prononce pas bien, c'est qu'on lit intégralement de Broglie, d'accord, ok.
Donc voilà. La famille de Breuil qui...
Ça, c'est Match TV, alors. Hein.
Entre autres, ils ont un célèbre physicien, et je crois qu'il y a eu un grand industriel dedans, je ne sais plus. Enfin bon...
Non. Ouais, cardinal, ça remonte à des lustres, hein, je veux dire, ouais. À des siècles.
Donc voilà, donc eh ben, Dusport vient de retirer son casque, donc je suppose qu'il a terminé. Hop, supplément week-end, eh ben, donc se termine catastrophiquement, on va dire, hein, parce que on va dire que ça a été un peu pénible aujourd'hui, émaillé d'incidents techniques, mais voilà, on s'est débrouillé. C'était Xavier avec vous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Dusport, lui, est en train de passer de l'autre côté de la régie pour commencer à se mettre en place. Donc voilà, vous, je n'en dirai pas plus. Thomas, j'espère qu'il va se rétablir, mais en tout cas, ne comptez pas sur lui la semaine prochaine, à mon avis. C'est pas bon, ce sera pas pour de suite. Donc, tous mes vœux de rétablissement, chers camarades. Voilà. Et sinon, eh ben, donc la suite des programmes sur Radio FMR à 15h, ce sera Vie d'ordure, c'est du punk. 20h, la Stereo Experience, c'est de l'électro bizarroïde. 21h30, Liquid Sky, ça c'est l'électro expérimental. 23h, Breakbeat Experience, c'est de la jungle. Voilà. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, donc voilà, à partir sur cette antenne, à partir de midi et en différé, vous pouvez nous réécouter tous les précédents numéros sur le site web de la radio qui ne pointe pas. Donc je vais vous donner le mien, dascritch.net. Et désormais, donc il y a à la fois le format Ogvorbis, le format MP3 en podcasting. Voilà. Et puis. Dusport, je peux te dire, c'est pénible hein, de manipuler les bouquins, les CD et en même temps tenir le micro en main. Je vous jure, Radio FMR, c'est vraiment de la radio associative.
Il est 13h17 ouais, sur la pendule de Radio FMR 89.1 MHz et je suis passé de l'autre côté, c'est pour ça que je suis encore en train de régler mon micro, voilà, ça va un petit peu mieux. Et là, je vous avoue que ça va être la première fois que je fais une émission avec un micro dans la main. Ouais, ouais, parce que généralement, ici à FMR, on est quand même un petit peu équipé. On a quand même un pied de micro, une petite chose comme ça. Hein. C'est pour les gens qui font leur émission tout seuls, tu sais. Ils font la technique, ils ont leur petit papier, leur disque, tout leur truc. Et puis bon, ils doivent se démerder avec tout ce bordel. Et le pied de micro, généralement, c'est appréciable, on va dire. Ça permet d'avoir une main libre de plus. Et dans ce cas, eh bien, pour cette émission, ça va être très dur. Mais on va quand même essayer d'y arriver. Dans la deuxième partie, c'est un petit peu plus facile. Mais là, ouais, bon, d'accord. On reviendra un petit peu sur cet excellent Tour de France qui s'est terminé dimanche dernier. On abordera ensuite, bien entendu, le football parce que c'est reparti. Ouais. Avec le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Ligue 1, on a déjà joué hier soir un seul match et on joue ce soir. En Ligue 2, on a joué hier soir. Néogra également le football au niveau des sélections nationales chez les jeunes, où ça cartonne bien chez les filles et chez les mecs. On parlera un petit peu de moto, un petit peu de rugby, mais je pense qu'il sera aux alentours de 14h. Et là, ben, on s'arrêtera pour diffuser un petit peu plus de musique.